Muros.
Extra Muros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Coucou, bienvenue. Nous sommes en direct sur la scène du Festival du film 2026 à Douarnenez en partenariat avec Radio Transistor et Radio U. Nous sommes très contents de ce quatrième jour de festival et ce deuxième jour de radio. Et aujourd'hui, au plateau, nous avons Guillaume à l'animation.
Bonjour Rita.
Et nous avons Morgane.
Bonjour.
Et Fred à la technique.
Bien sûr.
Qui va nous
Frédéric.
Plein d'extraits et de morceaux. Le thème de l'émission du jour, c'est le foot féminin et l'immobilier, on va dire. Bon, en gros, on va parler de deux films. On va parler du film Championne et du film Gravé dans les roches. Donc, il parle des roches blanches. C'était ça la partie immobilier. C'est deux films qui ne parlent pas vraiment du Maroc, même pas du tout, mais qui font partie de la session Regarde ici au sein du Festival de cinéma. Donc, c'est des films qui sont, on va dire, produits en Bretagne. Et donc, c'est ces deux discussions. On va commencer d'abord par Championne et ensuite, on accueillera une équipe des Roches Blanches qui nous parlera de Gravé dans les roches. C'est le programme du jour, Rita.
C'est super, ça me donne très très envie, surtout de parler de football, c'est incroyable.
Eh bien, on commence alors
oui.
Avec donc Morgane Lincifercot, t'es la réalisatrice de ce film Championne qui a été diffusé samedi dernier et qui est rediffusé jeudi à 13h30 à l'Amphithéâtre Saint-Blaise, mais qui est complet. Mm. Du coup, l'émission vous donne très envie de voir le film, et j'espère que ce sera le cas, ben, ça ne sera pas possible jeudi. Déjà. Mais il sera sans doute rediffusé plus tard après.
Oui, on espère.
Bon. Championne, ça parle de foot féminin et plus précisément, ça parle d'une équipe, une équipe bretonne, l'équipe des filles, dites des filles de Chapoteau. Donc c'est une
Chapoteau.
Pardon. Ouais. C'est une équipe qui a été montée dans une usine, donc l'usine Chapoteau à Saint-Brieuc en 1971, c'est ça. Donc tu racontes cette histoire-là, l'histoire de ce club à travers trois joueuses, Josette, Babette et Isabelle, donc qui ont été joueuses de cette équipe de Chapoteau et que tu fais rencontrer des joueuses actuelles de l'EAG en avant Guingamp. Et du coup, ça, c'est le contexte du film. On va en parler plus en détail. On va parler de ce travail, ce qui t'a amené à travailler sur ce club, ce travail sur les sources ou l'absence de sources, l'absence d'images sur cette grande histoire du foot féminin dans les années 70 et 80, du combat des joueuses professionnelles. Mais on va tout de suite écouter un extrait. Donc, c'est un extrait du film Championne.
Je n'avais pas conscience à ce moment-là que c'était militant. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas comme ça. Au début, il fallait aller se battre à l'Office municipal des sports pour obtenir des créneaux. Et ça, c'était compliqué. Heureusement, on avait des personnes très, très, très fortes, très puissantes, comme Josette, comme Monique, comme Fanfan, qui allaient défendre la cause. À titre perso, quand tu es joueuse, tu cherches à jouer. Tu ne te rends pas bien compte. Tu n'as pas... J'en ai souvent parlé avec mes copines du Stade de Reims qui, elles, ont été très médiatisées dans les années 70 et auxquelles on voudrait attribuer le rôle de suffragettes du foot. Elles ont combattu. En fait, elles étaient aussi... elles te disent, mais nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voulait? C'était jouer au foot sans conscience de travailler pour l'émancipation des femmes ou la promotion ou même d'avoir un comportement militant ou féministe. Or, de fait, on l'avait.
Sur le bord de la touche, ni pas moi. Les commentaires, ça y allait, hein. Oh là là, c'est vrai que ça a été difficile à départ, hein, quand même. Nous, on faisait ça pour s'amuser, quoi.
Alors, Morgane, tu peux nous dire qui on a entendu?
Eh bien, on vient d'entendre Babette Bougère, qui nous raconte un peu comment est-ce qu'elles ont commencé, avec purement la motivation de jouer au foot à cette époque-là, sans forcément politiser le fait de jouer au foot. Enfin, pas du tout, quoi.
Donc, c'est une équipe d'usine, comme ça se faisait aussi pour les garçons. Et donc, là, pour les filles, donc l'usine Chapoteau qui produisait quoi?
Des chauffe-eau. Okay. Ça a été une des plus grosses usines bretonnes dans les années 80. Il y avait près de 2000 salariés, donc c'était énorme usine à gaz. Et Josette, donc, qui est une des protagonistes, qui a 81 ans aujourd'hui, elle avait commencé à travailler dans cette usine à partir de ses 15 ans. Et mai 68, elle se fait embarquer dans les manifs, tout ça, ça la bouscule, elle se syndique Et en fait, grâce au syndicat, elle rencontre plein de gens, elle se mobilise. Et puis, elle était aussi très sportive, donc elle faisait déjà partie du club de l'usine. Mais là, donc, ils s'engagent vraiment avec la FSGT. Et là, c'est vraiment jouer ensemble pour mieux lutter ensemble. Donc, il y a vraiment ce truc de fédérer les ouvriers, les ouvrières par le sport pour qu'ensuite la lutte soit plus victorieuse.
C'est pour ça qu'elle désigne les suffragettes. Et je me suis dit, ah oui, cette personne a, j'imagine, 80 ans, en effet.
Et du coup, donc là, Josette, elle se dit... en fait, il y a un gars qui s'appelle Fanfan qui s'occupe du foot plutôt masculin. Et puis, ils sont potes. Et puis, un peu pour rigoler, ils se disent, vas-y, on va lancer un tournoi de football féminin. Pourquoi pas? Enfin, voilà, on va lancer ça. Donc, elle va chercher... des femmes dans différents ateliers, donc voilà, imaginez 2000 salariés. Pardon. Et en fait, ça prend, c'est vraiment, on a des photos qu'on voit dans le film où vraiment les ouvrières, elles sont avec leurs fiches sur la tête, elles sont en collant, elles commencent à jouer en collant. Au bout de 2 minutes, les collants sont éclatés. Et puis en fait, Josette, et c'est ce qu'elle dit, et c'est ce qu'elle m'a dit la première fois que j'ai rencontré, mais ça revient. Sans cesse dans sa bouche, c'est mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais genre, c'est donc vraiment ça, c'est... le moteur, quoi.
Et dans ton film, oui, on va voir tout de suite que je n'ai pas vu ce film, désolé. Mais dans ce film, t'as des archives de ces... Ah, d'accord.
Ouais, carrément. Donc Josette me raconte cette histoire-là. Elle me sort pas tout de suite les photos. Elle me dit plutôt que bon, elle a plus rien, quoi. Puis elle a tout donné. Puis de toute façon, c'est plus très important, machin. Et en fait, elle me donne quand même le contact de ses autres copines footballeuses. Donc on remonte le fil petit à petit. Le jour de ma rencontre avec Josette, elle appelle sa pote Fabienne en haut-parleur au téléphone. Oui, il y a des gens sur mon canapé. Ils veulent rencontrer les filles de Chafoto, tout ça. Et puis Fabienne au téléphone dit commence à raconter des choses. Mais rapidement, elle dit mais moi de toute façon, je veux pas parler. Je veux pas que les gens sachent que j'ai joué au foot. Donc au début, pour commencer un peu l'enquête, parce que bon, moi, pour revenir un petit peu à la jeunesse, c'est que moi, je suis pas du tout footballeuse. Je connais rien au milieu du foot avant de rentrer dans l'enquête de ce film. Mais c'est la réalisatrice Marie-Elia, qui est une réalisatrice douarnenniste de documentaires et de fiction, avec qui j'ai travaillé juste l'année précédente, avec qui on s'est bien entendu. Et elle arrête de faire des films, mais elle me transmet une histoire qu'elle a en tête depuis quelques temps, qui lui a été racontée à l'issue d'une projection d'un de ses films qui s'appelle Les Chevalières de la Table Ronde. Et ce film, il a été réalisé en 2013 et c'est sur les pionnières du planning familial dans le Finistère. Donc elle interview des femmes d'un certain âge qui ont porté ce combat. Et en fait, elle tourne beaucoup avec ce film. Et dans le public d'une des projections en Bretagne, il y a une dame qui prend la parole et qui dit excusez-moi, moi j'ai adoré votre film, mais quand même je voulais vous dire, il n'y a pas que les profs et les antélos qui sont féministes. Nous, avec les copines de l'usine Chafoto à Saint-Brieuc, on a monté une des premières équipes de football féminine de Bretagne. Donc cette histoire reste en tête... dans la tête de Marie, et puis très généreusement, voilà, elle me dit elle sait que je fabrique des petits films un peu à l'arrache dans mon coin, elle sait que j'ai envie de me lancer un peu plus, et elle me dit je vais te raconter une histoire, si t'es motivée à tirer le fil, je veux bien t'aider pour l'écriture, les débuts de l'écriture, quoi. Et du coup, elle me raconte l'histoire. Et puis, j'étais là en mode, mais c'est qui ces dames, quoi? C'est qui sont ces femmes qui se sont dit à une époque les équipes féminines n'existaient pas du tout. Puis bon, globalement, le droit des femmes était encore bien à conquérir. À quel moment elles se sont dit, vas-y, on prend cette liberté et on y va, on crée l'équipe, quoi.
Pour continuer cette histoire, donc l'histoire des filles de Chafoto, c'est une équipe qui a fini par être championne de France en 1989. Dans cette équipe, il y a donc trois joueuses que tu suis particulièrement, donc Josette, Babette et Isabelle. Josette, c'est dont tu as parlé, c'est un peu la doyenne qui a lancé Tenus Club toute sa vie. Babette, c'est quelqu'un qui a fini par travailler à la Fédé nationale pour promouvoir le foot féminin, donc ça a pris chez elle. Et il y a une joueuse aussi, Isabelle Lebouch, qui aujourd'hui conduit des bus, mais qui a été 29 fois en équipe de France, qui a marqué 411 buts dans sa carrière, donc il y a une grande histoire. Oui. Et face à cette histoire, qui est une grande histoire du foot, il n'y a aucune archive quasiment. Les seuls extraits de matchs que tu as trouvés, c'est un de leurs entraîneurs, quand ils en ont eu un, parce qu'avant, c'était un peu en autogestion, oui. Leur entraînement, et ça se voit dans les archives. À un moment, elles ont eu un entraîneur qui a eu envie de filmer avec son caméscope. Donc, c'est les seules archives qu'on a de cette histoire du foot, à une époque où, il y avait Platini, l'équipe de France, oui. Et tout ça. Là, à côté de ça, il y a quelques cassettes VHF que tu as réussi à collecter, et on voit dans le film que tu mets en scène ces sources-là. Tu as construit un décor dans l'usine, et il y a une sorte de petit musée de tout ce que tu as pu collecter, mais c'est pas grand chose par rapport à cette histoire ou ce qu'on pourrait attendre de cette histoire.
Complètement, ouais. Du coup, cette histoire avec les archives, elle vient rythmer un petit peu tout ce travail d'enquête, et elle fait créer des points de bascule en fait dans ce que le film va devenir. C'est que, donc voilà, intriguée par l'histoire au début, je trouve un petit peu des infos sur un sombre blog sur internet, mais il n'y avait vraiment pas grand chose. J'ai le nom de Josette André. Puis je me dis, je vais contacter Guingamp, parce que je comprends que le club de Guingamp, les féminines, sont les héritières directes de cette usine, enfin du club créé dans l'usine. Donc je chope le numéro de téléphone de Josette. Et voilà, donc j'arrive chez elle, dans son HLM à Saint-Brieuc, où elle a gardé très peu d'archives. Enfin, elle nous accueille un peu, bon voilà, pas très très convaincue par notre venue, on a dû insister un petit peu. Et puis elle passe un petit peu 5 minutes en boucle à nous dire qu'elle n'a plus rien à raconter, que c'est du passé, tout ça, tout ça.
Ça,
et
ça
puis,
promet un voilà. enregistrement carton. Voilà. En général, on commence comme ça, puis finalement, il y a tellement de choses à dire.
Vrai, carrément. Et en fait, bon voilà, elle n'est pas dure à convaincre. Elle revient 10 minutes plus tard de sa chambre à coucher avec genre 3 albums photos et quelques cassettes VHS. Donc les photos sont trop marrantes, puis ses récits sont incroyables, quoi. Je rentre chez moi et je regarde les cassettes VHS direct, quoi. Et en fait, je tombe sur cette cassette donc, qui a été tournée, comme tu disais tout à l'heure, par l'entraîneur de 89, donc de la fameuse année où elles sont devenues championnes de France.
Et leur entraîneur qui les entraînait, lui, il était joueur de foot, ouais, à Guingamp. Ouais. Il a perdu un pari, oui. Et son pari, l'enjeu, c'était d'aller entraîner les filles pendant un an. Du
exactement.
Coup, parce qu'il a perdu un pari, il se retrouve avec leur entraîneur.
Leur entraîneur, ouais. Et elle se retrouve championne de France. Mais bon, ça, voilà, on sait encore.
T'as bien suivi.
Ouais, t'as vraiment bien suivi, ouais. C'est impressionnant. Et du coup, donc je rentre chez moi, je regarde cette cassette, et en fait, mais elle est trop marrante, cette cassette. C'est vraiment une bande de potes qui sont tout le temps en train de se marrer, et leur entraîneur qui essaye de garder des traces en fait de ce moment. En fait, c'est la veille du championnat de France. Donc voilà, il y a de l'enjeu, mais en même temps, elles s'entraînent sur des parkings, elles font des exercices à la noix. Enfin, ça fait vraiment rigoler en fait quand tu sais qu'elles jouent le championnat de France, quoi. Et en fait, lui, il essaye d'avoir un ton journalistique parce que tu sens qu'il essaye de pallier un manque vu que tout le monde s'en fout. Il y a personne dans les gradins pour ce championnat de France. Donc il essaye de pallier un manque en les filmant et il prend un ton journalistique. Donc c'est très drôle parce que elle se prête un petit peu au jeu. Elles essayent de lui répondre et puis au bout de 10 secondes, en fait, elle l'envoie valdinguer en lui rentrant dans l'art et puis elle en s'envoyant des pics et en blaguant entre elles. Et en fait, du coup, moi, là, je regarde ça encore. Je viens juste de rencontrer Josette. Je viens juste de commencer à me documenter sur cette histoire. Donc, je connais rien au football féminin et à son histoire. Et en fait, juste, je suis complètement absorbée par ces images parce que c'est de la joie, parce que c'est une bande de copines, en fait. Et tu sens aussi qu'au-delà de l'envie d'avoir des victoires sportives et du sport, il y a vraiment ce truc de trouver des excuses pour se rassembler et être ensemble, sortir de l'usine, avoir des moments de détente et de convivialité.
Et toi, pour ce film, t'as mis en scène, t'as créé quelque chose, c'est-à-dire que tu les as fait rencontrer les joueuses actuelles du club de Guingamp, et c'est assez émouvant de les voir jouer à FIFA ensemble et puis se partager, faire des jongles sur un parking. Mais t'as aussi filmé un match comme un match de foot féminin n'est jamais filmé, c'est-à-dire en général il y a juste une caméra qui fait un plan large, mais il n'y a pas trop des gros plans parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens. Et toi, t'as donné un peu ces moyens-là, même t'as mis de la musique un peu épique, du coup t'as voulu faire ça. Raconter le foot comme on pourrait le raconter, comme la beauté du sport, l'intensité du jeu, tout ça. Enfin, c'est ce que tu as voulu faire.
Ouais, carrément. Bah, c'est ça. On a voulu un peu venger ces années et années de captation pas faites. Et du coup, en plus, raconter ce truc du serpent qui se mord la queue, si on leur donne pas des bonnes conditions pour s'entraîner, puis après pour jouer leur match, puis pour que le public puisse venir s'installer dans les tribunes et regarder le match, personne ne va les suivre, personne ne va s'attacher à elles, donc personne ne va regarder et du coup personne ne va les médiatiser, et c'est vraiment un serpent qui se mord la queue infini. J'ai travaillé avec une chercheuse qui a fait sa thèse sur la médiatisation des femmes dans le sport féminin, et c'est vraiment, elle parle de pionnière perpétuelle. C'est un truc de... elle donnait pour exemple comment sont médiatisées les Coupes du Monde, où en fait, elle remonte mais des années et des années en arrière pour les Coupes du Monde de football féminin. Et en fait, à chaque fois dans les médias, on parle de « Ah, cette année, les féminines vont pouvoir faire leurs preuves ». Enfin, comme si... Ah, voilà. Bon, mettons un petit peu la lumière sur eux. Regardez, on les respecte, on les considère. Mais... on les met vraiment à une place de genre comme si, en fait, ah, regardez, c'est nouveau. Oui, et donc, du coup, ça répète et tout ça. Et donc, bon, ça, il n'y a personne qui nous le disait factuellement dans le film. Mais du coup, avec la monteuse Emmanuelle Pencalet, on a essayé vraiment de travailler ce truc de recommencer toujours au début, tu vois. Et que, en fait, comme il n'y a pas d'archives, il n'y a rien qui a été écrit. Ça n'a pas été capté, mais du coup, ça n'a pas été gardé. Et donc, du coup, les jeunes joueuses aujourd'hui, enfin, jeunes et moins jeunes, en fait, il y en a très peu qui connaissent leur histoire. Et donc, du coup, il y a ce sentiment de devoir recommencer à chaque fois. Mmh. Et du coup, tu n'as aucun poids face à rien parce que tout le monde va te dire bah, « C'est bon, vous avez de la chance, là, franchement. Vous avez quand même des conditions vachement chouettes pour jouer. Vous plaignez pas, tu vois.
Ouais, » Alors toujours décrédibilisé, voilà. Quoi qu'il arrive.
Alors qu'en fait, elles doivent laisser la place en salle de muscu à l'équipe des garçons, mais l'équipe qui est en même, je sais pas quelle division.
Elles doivent laisser les terrains aux jeunes joueurs de 11 ans. Les U11, c'est les joueurs de 11 ans, donc c'est juste hallucinant. C'est l'équipe que j'ai suivie là à Guingamp, c'est la seule, c'est l'élite, c'est l'équipe élite du club parce qu'elles sont en Ligue 1, alors que les gars sont en 3e division à cette époque-là. Et du coup, les U11, c'est les petits garçons de 11 ans qui viennent s'entraîner. Et elle, l'équipe professionnelle, se fait dégager du terrain par les U11 et tout le monde trouve ça normal. Donc du coup, c'est vraiment un truc, comme elles disent, c'est un combat permanent, enfin, genre tu te bats contre la société en général, mais tu te bats au sein de ton club, enfin contre ta présidence.
Pendant très longtemps, elles n'ont pas eu de statut de professionnel, pas de contrat de travail, donc elles étaient condamnées à l'amateurisme. Oui. Bon, ça a changé. Maintenant, elles ont aussi une convention collective, mais ça fait...
Mais qui a été négociée vraiment à la va-vite, quoi. Ouais.
Du coup, effectivement, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont changé quand les jeunes rencontrent les anciennes, parce qu'elles ont une salle de sport, elles ont un statut de footballeuse professionnelle, mais comme tu dis, elles ont toujours un combat...
qui est énorme à mener. Et du coup, pour finir, pour les archives, parce que j'ai pas complètement répondu à la question, c'est que donc je découvre cette cassette me lier vraiment à cette histoire. Et en fait, à ce moment-là, quand je regarde cette cassette trop marrante là, j'ai aucune idée du je sais pas encore qu'elle, enfin je viens d'apprendre qu'elles ont été championnes de France, mais je sais pas que Isabelle Le Bouch, elle a cette carrière d'avoir joué à l'international, 29 sélections en équipe de France, et qui est le cas aussi de nombreuses joueuses de Chafoto. Ils ont eu Sylvie Jossé, qui a été considérée pendant longtemps comme la meilleure gardienne d'Europe. Bref, elles ont des joueuses incroyables. Beaucoup ont fait partie de l'équipe de France. Et là, je me dis, non, mais là, c'est sûr, je vais trouver des archives. Parce que, bon, des archives professionnelles de Chafoto, de l'équipe de Chafoto, je me doutais qu'il n'y en avait pas.
Mais il y a des archives de France, quand même, autres que cinématographiques. J'imagine que tu trouves aussi des photos.
Oui, photos, elles en avaient pas mal. Mais de l'équipe de France, pas tant, tu vois. Ils avaient beaucoup de photos de Chafoto parce que c'était la bande de potes, mais équipe de France, moins. Et du coup, donc, je contacte la FFF. Je contacte l'INSEP, donc qui est l'Institut national du sport de haut niveau, et les deux me répondent. Enfin, ils mettent du temps à me répondre, en me disant donc l'INSEP qu'ils ont rien sur le football féminin, même qu'ils commencent à avoir quelques trucs, mais qui datent de 2010, et encore c'est pas leur centre d'intérêt, quoi. Ils le disent noir sur blanc. Et la FFF me répond, enfin il me fait mariner, et me dit qu'ils vont chercher ceci cela, mais en fait ils n'ont aucune image de l'équipe de France féminine, alors que le football féminin a été officialisé par la FFF en 1970 pour bien quand même pouvoir les contrôler, parce que sinon ils avaient peur qu'elle crée une autre fédé féminine. Et en fait, jusqu'à dans les années 2000, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'images vidéo de l'équipe nationale, en fait. Donc c'est grave le mépris, et donc là je suis hyper choquée. Et Babette, du coup, qui est aussi donc protagoniste, qui a été joueuse à Chafoto et puis qui, par un souci de santé, a dû arrêter le foot, et sa niaque de la vie l'a emmenée à arriver à la FFF et à se battre toute sa carrière pour faire une place aux femmes dans le foot, et ben elle, qui fait partie de la grande maison, quoi, de la FFF, elle est choquée aussi, parce que je pense qu'au fond d'elle, elle sait, elle a conscience, hein, de la déconsidération du football féminin, mais je pense qu'elle va pas jusqu'à se dire que c'est possible qu'il y ait si peu de choses conservées. Et donc du coup, ça lui fait vraiment un truc, enfin genre elle a été mise en arrêt et tout, enfin ça l'a vraiment remué, en fait, le tournage. Et la bonne nouvelle, du coup, donc la bonne nouvelle pour le film, c'est que du coup, ça nous donne une envie de fou, quoi, de réparer ça. Et on fait beaucoup d'appels dans la presse pour essayer d'avoir d'autres archives, du coup, amateurs. Et c'est génial, on trouve des Super 8, une ancienne joueuse qui a commencé du coup en 71, qui était ouvrière, qui avait filmé. Donc on numérise ça avec la Cinémathèque de Bretagne. Enfin, beaucoup de gens nous envoient des images amateurs, donc ça vient nourrir le film. Et en parallèle, du coup, Babette, ancienne joueuse à la FFF, elle est remontée et du coup elle va taper du poing sur la table à la Fédé. Elle prend rendez-vous avec le directeur général et elle lui dit là en fait trop la honte, enfin genre production, film, enfin elle raconte l'histoire et là elle ressort de ce rendez-vous avec la possibilité de créer un nouveau poste à la Fédé au patrimoine. C'est la création d'un poste de valorisation du football, enfin de l'histoire du football féminin. Ah, donc elle se retrouve nommée
à ça, ouais. C'est super.
Donc voilà, petit.
Et puis les obligations sûrement de l'État, de la parité et tout, voilà, ça. J'imagine qu'on peut aussi jouer sur ce tableau-là. Mais c'est quand même, on peut dire, cette année pour le 48e festival, l'affiche, c'est l'affiche, enfin l'affiche du festival, c'est ton film.
Oui.
Et ça déjà, c'est déjà pas mal.
Bah c'est une belle coïncidence.
Ben oui.
Et il y a une scène d'ouverture, enfin celle de ton film, qui est vraiment très forte, que j'ai envie de raconter. C'est ce match que je disais que tu as filmé et que tu as mis en musique avec une musique un peu forte. Là, il y a plein de basses et tout ça. Mais elle est incroyable, cette scène, parce que bon, on voit des joueuses jouer. Dans les gradins, il y a les anciennes qui commentent et avec elles, il y a les toutes petites du club qui n'ont même pas 10 ans, qui crient des slogans, qui hurlent tout le temps. Et c'est des femmes qui commentent. On a l'impression d'être dans un univers parallèle où le football très masculin, enfin voilà, qui est presque un espace de non-mixité. Là, d'un coup, c'est que des meufs et c'est vraiment hyper fort à voir, quoi. Cette scène-là, ouais.
Non, c'est vrai. Et franchement, c'est bon, évidemment un choix de réalisation, mais franchement, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour n'avoir que des femmes à l'écran. Et c'est-à-dire que l'intendant, donc celui qui s'occupe de la lessive et de plier les vêtements, c'est Hervé qui a été longtemps président, tout ça, machin, mais lui, il est trop content de faire ça. Donc c'est vrai que l'intendant, enfin, c'est vrai que c'est un peu côté monde parallèle que presque on voyait plus dans le film, parce que c'est tellement un monde du coup de femmes, toutes les bénévoles, la sécu et tout ça, enfin toutes les personnes qui sont mobilisées du coup sont des femmes. C'est bien, enfin c'est super, et d'un côté c'est aussi parce que les hommes qui sont dans le club en ont rien à foutre aussi. Donc bon, c'est à double tranchant toujours, mais c'est vrai que j'avais conscience que c'était un film intergénérationnel, parce que bah au départ c'est l'histoire de raconter l'histoire de ces pionnières, et puis après évidemment quand on a avancé dans cette enquête, on s'est dit bah on va l'ancrer dans le présent, parce que sinon ça n'a aucun sens de raconter cette histoire. Et donc c'est là qu'on fait rencontrer des pionnières avec leurs héritières de leur club aujourd'hui. Mais surtout, au fur et à mesure, bah, les jeunes là, qui hurlent dans les tribunes pour encourager les filles se sont rajoutés. Et puis voilà. Et en fait, quand on est arrivé sur le banc de montage avec Emmanuel, elle m'a dit « Mais en fait, c'est ouf, il y a toutes les générations de femmes dans ton film. » Et tu vois, et on part vraiment des toutes petites... après les 20-30 ans du coup qui sont les jeunes joueuses, 40-50 ans c'est les journalistes, commentatrices, la présidente, et après 60-80 c'est les pionnières. Et en fait tout ce petit monde fourmille et cohabite et passe, enfin elles passent leur vie ensemble en fait.
Mais ton film du coup a donné aussi l'occasion à ces personnes de se rencontrer, de se rassembler et tout ça.
Et ben en fait elles se côtoient tous les jours, mais elles se parlent pas vraiment. Et du coup, par exemple, Isabelle Le Boulge, qui a marqué ses 400 buts, 29 sélections, tout ça, elle est coordinatrice de la section féminine à Guingamp. Donc c'est elle qui fait vraiment le pont dans le film et dans la vraie vie entre ces pionnières et les jeunes joueuses. Et en fait, les jeunes joueuses de Guingamp, ça fait pour certaines plusieurs années qu'elles étaient dans le club, et elles n'avaient aucune idée de la carrière d'Isabelle, quoi. Aucune idée. Donc nous, on les filme à un moment, on va jouer à FIFA, parce que toutes les filles de Ligue 1 sont scannées et ont leur personnage dans FIFA, donc ça me faisait trop marrer de faire jouer les pionnières à FIFA avec les personnages des joueuses de Guingamp. Et en fait, les filles posent des questions à Boubouche, et puis là, elles balancent hyper humblement... j'ai 29 sélections en équipe de France. Oh, j'étais attaquant. Moi, j'ai marqué 400 buts. Enfin, tu sais, elle lance ses petites infos. Elles sont comme ça. Mais quoi ? Mais c'est dingue, mais Boubouche et tout. Enfin, et en fait, ça fait des années qu'elle se voit, mais Boubouche était tellement humble. Et en général, ces femmes-là,
Intériorisé sont pas du tout là. D'être des femmes, finalement.
Voilà. Et ça, voilà. Je pense que ça arriverait pas dans un autre contexte, quoi. Donc elles se rencontrent, ouais, carrément. Elles se côtoient avant, et là, avec le film, elles se rencontrent.
Merci beaucoup, Morgane, d'être venue parler de Championne. Tu peux pas donner d'autres dates de projection, à part jeudi, où c'est complet.
Il a été pris au mois du film documentaire. dans le Finistère et dans les Côtes d'Armor. Donc potentiellement, il va tourner dans les assauts, les fermes.
C'est ton premier film ?
Oui.
Du coup,
produit. Ouais.
On pourrait peut-être tourner dans les écoles parce que la place du foot dans les écoles, c'est quand même assez problématique. Du coup,
mais ça, c'est vraiment la trop bonne surprise avec le film, c'est que en fait, à chaque fois, là, il y a eu beaucoup de projections au mois de juin et puis toutes les avant-premières cet hiver. Et à chaque fois, ça a fait des petits. Il y avait des profs ou des coachs, tout ça, dans les salles. Et du coup, par exemple, il va tourner dans toutes les. Il va être diffusé dans toutes les écoles des Côtes d'Armor.
Waouh, bravo. Bah, cool. Ça me fait vraiment plaisir.
Ouais, carrément. Et il a été montré dans beaucoup d'écoles à Paris aussi, des rencontres enfants, profs et des pionnières. Enfin, il va beaucoup tourner dans les écoles.
Super, bravo. Ben moi, ça m'a donné très envie d'aller le voir. Hein. Ça y est, je suis convaincue.
C'est Championne de Morgane Nancy-Ferco. Merci encore, Morgane.
Merci.
Et on va parler tout de suite d'un autre film, Gravé dans les roches. On en parle tout de suite après un morceau de Tina Riwen.
لا ننتمتا
On continue ce plateau du quatrième jour du festival en partenariat avec Transistor et Radio U. Et maintenant, nous allons écouter des personnes qui sont venues témoigner de l'histoire des Roches Blanches à Douarnenez.
L'histoire et puis aussi de ce qui se passe dans, là-bas, aux Roches Blanches. Donc, c'est l'objet d'un film qui s'intitule « Gravé dans les roches » qui est diffusé jeudi à l'Amphi Saint-Blaise à 10h et vendredi à la Balise à 13h30. Il reste des places, j'imagine. Pas du tout, c'est hyper complet. Vient de dire Georges, qui est à côté d'Abdou et d'Émilie, qui vous êtes habitants, habitantes des Roches. Vous avez participé à ce film soit en étant filmé, soit en étant de l'autre côté de la caméra. On va parler de ce film et de ce qu'il raconte. Peut-être on peut parler des Roches Blanches. C'est toujours difficile, on a l'impression, de prendre position quand on présente ce lieu. Alors, je vais essayer d'être très factuel. Les Roches Blanches, c'est une partie de Douarnenez. Ouais, bah, déjà, en disant ça, on a l'impression qu'on dit quelque chose. Enfin bref, on va en reparler aussi de ces représentations autour des roches. Les roches, c'est un lieu qui existe depuis, dans l'état actuel, depuis une quinzaine d'années. C'est comme un hameau de la ville. Il y a une quarantaine de personnes qui y vivent. C'est un ancien centre de vacances qui est squatté, qui a une longue histoire avec plusieurs chapitres. Et voilà, ce que je disais, dire ce que sont les roches et comment elles sont perçues, c'est déjà un enjeu, puisqu'il y a vraiment un enjeu de représentation autour de ce lieu, qui est un lieu menacé aujourd'hui, puisqu'il a été vendu et acheté par le département du Finistère qui veut le renaturer. C'est un euphémisme pour dire le raser. Mais ça n'a pas encore eu lieu, ça n'aura peut-être pas lieu. C'est un lieu habité et pas à vendre, comme on peut le voir dans la bande-annonce du festival et dans le film Gravé dans les roches. Donc on va parler de ce film et puis aussi de l'actualité de ce lieu. Là, c'était un résumé. Je pourrais dire aussi que vous êtes venu parler des Roches Blanches il y a un an, l'actualité c'était justement la mise en vente de ce lieu. Peut-être qu'on peut parler de ce qui s'est passé dans les grandes lignes depuis un an. Alors voilà, c'est ça, c'était l'année dernière, vous aviez un mois pour vous organiser en apprenant que le lieu où vous vivez, votre espace d'habitat, allait être vendu aux enchères. Donc ça c'était 2025. Aujourd'hui en 2026, c'est quoi l'actualité pour les Roches Blanches?
L'actualité ou peut-être un résumé de ce qui s'est passé depuis?
Un résumé, ouais, si tu veux, ouais. C'est une longue histoire, ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de...
Bah, du coup, on a eu un mois pour... entre le moment où on a appris que le lieu était mis en vente et la date de la première vente. Et pendant ce mois, on a lancé une cagnotte et on a fait beaucoup d'appels à solidarité parce qu'on voulait participer à la vente. Et on s'attendait pas, mais on a récolté plus de 200 000 euros en moins d'un mois, ce qui était la mise de départ pour pouvoir participer. C'était censé être le 3 septembre et le 1er septembre le département il a voté en urgence une enveloppe de 500 000 euros parce qu'il voulait aussi participer à la vente et il voulait nous racheter. Et le 3 septembre la vente aux enchères à Quimper a été reportée parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu venir avec l'huissier parce que soi-disant c'était dangereux de venir sur le lieu pour faire des visites. Donc ils ont reporté la vente au 17 décembre. Donc nous, ça nous a laissé plus de temps pour nous organiser, pour récolter encore plus d'argent, pour faire encore plus de com et tout ça. Et du coup, on est arrivé à cette vente avec plus de 500 000 euros, donc une très 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 grosse somme. Et merci à tous les gens qui nous ont soutenus, parce que c'était vraiment inespéré. Sauf qu'un petit peu avant la vente aux enchères, le département a fait une proposition de vente à l'amiable au
tribunal d'Auxerre, puisque d'Auxerre. Le lieu, c'est un ancien centre de vacances d'une mutuelle de Lyon.
Liquidation judiciaire, ouais, donc c'est un juge qui décide de ça. Et enfin, il y avait la vente aux enchères, mais c'était aussi possible de faire une vente à l'amiable. Et donc le département a décidé de faire une proposition à l'amiable avant la vente aux enchères, parce que je pense qu'ils se sont dit qu'en fait, ils allaient peut-être perdre cette vente aux enchères finalement.
Ça sentait franchement leur aussi.
Ouais. Et du coup, on est aussi allé à la vente à l'amiable pour faire une proposition qui était supérieure à celle du département. Eux, ils ont proposé 300 000 euros et nous 320 000. Mais le juge a quand même décidé que c'était le département qui allait gagner la vente. De là, du là, on a fait appel de cette décision, parce que c'est une décision de justice, et, enfin de justice, entre guillemets. Et du coup, on pouvait faire appel, on a fait appel, on a perdu cet appel, ça c'était le 10 juin, l'appel a été rejeté. Entre-temps, il s'est passé plein de trucs pendant l'hiver, il y a eu les élections municipales, il y a eu le carnaval, il y a eu, nous on a fait beaucoup de projections, beaucoup des événements publics aussi, un petit peu pour continuer à dire que malgré ce que dit le département, on est toujours là, on veut toujours rester et on va lutter pour que ce lieu il reste collectif. Et voilà.
Et du coup, là, actuellement, c'est un neuvième recours. Du coup, vous faites appel à... C'est un pourvoi en cassation pour dire que la cour d'appel qui a jugé qu'elle ne pouvait pas statuer sur la vente, réexaminer la vente, il y a des problèmes avec cette vente dont tu as parlé un petit peu. Alors, en tout cas, là, du coup, vous pourvoyez en cassation pour que cette cour d'appel se réexamine quand même cette vente,
oui,
qui est problématique à plein d'endroits. Enfin, il y a cette enveloppe qui est votée en urgence par le département quand ils apprennent que vous allez peut-être racheter le lieu. Il y a la vente aux enchères qui est annulée sous prétexte de troubles à l'ordre public, qui donc est délocalisée à un endroit où il y aura moins de risques pour eux. Donc c'est à Auxerre que ça se joue. Et du coup, il y a une offre inférieure du département qui passe devant la vôtre et supérieure. Enfin, il y a tout plein de choses qui vont pas. Et Georges, tu vois.
Mais oui, mais dans les procès, il y a le fond et la forme. Et techniquement, on n'a jamais été jugé sur le fond d'aucune des affaires dans lesquelles on est. On a été jugé sur la forme à chaque fois. Et quand le département dit « on a perdu toutes nos procédures », c'est un mensonge un peu facile. On a perdu le fait qu'on voulait accélérer les procédures. On n'a jamais perdu le fond du truc. Du coup, le département fait n'importe quoi avec l'argent public, il passe de vente aux enchères en vente à l'amiable, il oublie de se régulariser, il le fait 2 mois après. Nous, on attaque toutes ces choses-là, et c'est pour ça qu'on va en cassation aussi, c'est que le tribunal de Paris a juste dit, nous, on ne se sent pas légitime à juger cette vente. Donc nous, on va en cassation pour dire, si vous l'êtes, jugez-nous sur le fond, vous voyez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur.
Oh, c'est déjà au tout départ un grand projet inutile. Enfin, ça, c'est aussi un truc un peu. Je sais pas, peut-être on peut rappeler aux éditeuristes que l'idée, c'est quand même de déloger toutes ces personnes, détruire ces bâtiments et de construire un belvédère à des millions d'euros avec un parking sous prétexte de redonner la nature à cet endroit-là.
Oui, alors ils ont dit que ça serait pas un belvédère, mais peut-être juste un parking. Mais oui, c'est un. Au-delà de est-ce que le département a le droit ou pas de faire ça, est-ce qu'il est légitime à le faire ? Et normalement, c'est un budget qui est... Enfin, dans leur communication, ils font beaucoup de communication comme quoi ça serait un projet qui serait bon pour l'environnement. Mmh. Donc, s'ils prennent ça sur leur budget vert, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent consacré à l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, ça fait plus d'un million d'euros qui vont partir pour détruire une zone rurale, en fait. Et plutôt que de la mettre dans d'autres choses qui seraient beaucoup, beaucoup plus utiles, je sais pas, la lutte contre les algues vertes, la prévention des incendies. Enfin, il y a plein de trucs vraiment très urgents à faire. Et on le voit, là, cet été. Et eux, ils disent, non, on va expulser 50 personnes, une zone rurale, une ferme, et faire un parking avec le budget environnemental.
Et leur budget est pas du tout, c'est pas du tout clair. Enfin, il n'y a jamais rien de clair là-dessus. Rien que les 500 000 euros d'achat, après, ils n'ont pas dit aux électeurs, aux électrices que c'est à l'aide des milliers d'euros pour raser ces bâtiments-là. Ça, c'est jamais ils parlent du fond, finalement.
Je disais, il y a un enjeu dans la façon dont on présente les Roches Blanches, parce que on pourrait dire que, en fait, c'est des gens qui vivent à Douarnenez, qui font leur vie, et puis peu importe ce qu'ils y font, on ne demande pas aux gens de se justifier sur comment ils vivent chez eux. Donc c'est un hameau de Douarnenez avec une quarantaine de personnes qui va être rasé, et des gens vont être mis à la porte. Et du coup, dire ça, c'est assez factuel, mais il y a quelque chose d'assez révoltant. Et en tout cas, il y a une stratégie dans une façon de présenter les Roches du point de vue des départements, c'est d'insister sur le fait que c'est un lieu squatté, que ce lieu ne ferait pas vraiment partie de la ville, que... Il y a les habitants et habitantes de Douarnenez d'un côté et les gens des Roches qui seraient comme extérieurs. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu. C'est peut-être un des enjeux du film de montrer aussi ce qui s'y passe, de documenter et peut-être de dégonfler un peu des fantasmes qui sont très présents. En fait, Du coup, il y a cet enjeu de représentation des Roches que vous vivez depuis des années, hein. Enfin, en tout cas quand on vit Roche, qu'on connaît bien. Être, c'est comme une étiquette, être Roche. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce film et de ce que vous avez, ou en tout cas les gens qui sont venus filmer, puisque c'était pas mal de gens de l'extérieur qui ont fait un atelier cinéma aux Roches Blanches. Qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce que ça montre de ce lieu?
Bah, bonjour. Les gens qui sont arrivés, c'est les atolls et ils sont super cool. Et c'est des gens normaux. Comme parfois c'est difficile à trouver des gens normaux, mais ils sont normaux, ils nous ont filé tous les matériels. Et parfois tu ne sais même pas qui a filmé là-bas, qui a fait ça. Mais ce qui est cool, c'est que c'est des choses différentes. Et du coup, on a profité pour montrer un peu ce que c'est Roche. Que c'est un lien un peu historique aussi de cette région-là. Avant, quand tu as envie de balader et tout, bah, tu vas à Lady, je pense qu'il s'appelle. Il y a un panneau encore. Du coup, c'est un endroit pour promener. C'est un endroit où il y a les GR qui passent. Du coup, un espèce de mouvement des gens et personne ne fait pas de mal à la nature là-bas. Et la plupart des gens qui sont là-bas, c'est des squatters, c'est des gens qui gardent l'histoire de ce qu'on est, tout l'immigration, tout ce qui se passe dans le monde. Souvent, c'est dans ces lieux-là que tu trouves des histoires des gens, tu vois. Et là, en fait, ce que l'État fait en général, elle explique tout le monde. Du coup, il n'y a pas de grands lieux où tu peux trouver des choses culturelles et tout. Du coup, nous, on essaie de montrer un peu ce qui est là-bas. Du coup, on a filmé gauche à droite. Voilà, quoi.
Et même dans le film, il y a des archives, notamment de ce qu'était le lieu avant, c'est-à-dire un lieu de rassemblement de la jeunesse aussi, puisque c'était une colonie de vacances.
Peut-être tu confonds avec il y a eu un autre film sur les Roches.
Ah bah il y a deux. Ouais.
En fait, il y a deux films. Roches au cinéma, que je fais là. Ouais, il y a deux films. Enfin, il y a un premier film qui a été diffusé plus tôt à l'automne dernier, qui s'appelle Nous sommes les murs qui nous tiennent, ouais. Et qui dure une cinquantaine de minutes. Mais là, le film qui va être projeté au Festival de cinéma, il a été tourné en fin novembre 2025. Il est plus court, il est plus En fait, c'était un atelier de cinéma qui est venu passer une après-midi, filmer des petits moments par-ci par-là avec des effets sonores ou visuels. Et ça n'avait pas du tout vocation à devenir un film grand public, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'était un atelier, quoi. Et ils ont fait un montage et ils nous ont montré le montage qu'ils avaient fait et c'était vachement bien. Et du coup, c'est devenu. Enfin, c'était pas le but de faire un film qu'on pourrait projeter dans un festival de cinéma. Mais ça l'est devenu parce que c'était bien.
Et c'est un film assez poétique et, ouais. Et qui monte plein d'instants. Moi, j'ai participé aussi au film, pour être transparent. Voilà, qui monte aussi des scènes de vie, des choses voilà, du quotidien. Et...
Ouais, oui, les animaux, les ciels, et tout, quoi, les travaux. Tu vas voir des chiens, tu vas voir des chèvres.
Et est-ce que je disais tout à l'heure, on pourrait présenter les choses simplement de ces mes voisins, voisines de Douarnenez qui vont se faire raser leur maison pour sur un prétexte de renaturation et voilà, il y a quelque chose d'assez scandaleux. Et du coup, vous, comment vous vivez cette idée que c'est forcément un sujet politique et voilà qui vient, qui est politisé aussi du point de vue du département ou par la mairie ou de devenir un objet. Mais un peu comme le festival de cinéma, on pourrait dire, un champ de bataille, quoi.
Ben, c'est très difficile parce que la question de la représentation, je pense qu'elle est très compliquée pour plein de gens et elle est d'autant plus compliquée quand on est un collectif de... Ben, y a une cinquantaine de personnes, on ne s'est pas choisi, on n'a pas un mode de vie ou des idées qui sont uniformes et du coup, la représentation, si on dit quelque chose, ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on ne dit pas. Enfin, il y a tellement de points de vue différents que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Et même nous, on n'est même pas tous d'accord sur plein de trucs. Et du coup, c'est un gros enjeu parce que il y a ce qu'on représente et quand on représente des trucs, il faut faire attention à pas en invisibiliser d'autres. Mais le seul fait d'être représenté, parfois, juste en soi, ça en invisibilise d'autres. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas? Enfin, c'est vraiment une super grosse question. Et surtout après que. Enfin, on a vu pendant les élections municipales aussi comme c'est devenu un sujet politique au sein de la ville qu'on était vraiment genre y a soit t'es pour les Roches Blanches, soit t'es contre les Roches Blanches et c'est ça l'enjeu des élections. Enfin, ça rend fou parce que nous on n'a rien demandé et on est un peu genre utilisé, manipulé, instrumentalisé, voilà, pour, par l'extrême droite. Et que aussi ils font beaucoup de désinformation et c'est épuisant de répondre à de la désinformation parce que par exemple ils avaient dit à un moment dans les médias je sais plus ils ne scolarisent pas leurs enfants et nous du coup on prend du temps pour démentir ça mais c'est du temps qu'on passe pas à autre chose et à chaque fois qu'il y a des espèces de fake news un peu horribles comme ça on est obligé de prendre le temps de dire mais non c'est pas vrai. Et en fait, c'est super fatigant. C'est
que vous, vous avez besoin de vous présenter, de vous justifier ce qu'on demande à personne parce que vous êtes en situation...
Un des gros mensonges qu'ils continuent de dire, c'est que c'est une occupation illégale, mais c'est pas du tout illégal ce qui se passe. Et du coup, ça, je trouve que c'est... Enfin, c'est grave de la part des institutions de mentir à ce point. Quoi.
L'occupation sans droit ni titre est considérée.
C'est encadré par la loi, et tant qu'il n'y a pas de procédure d'expulsion qui est arrivée à son terme, c'était tout à fait légal et... Il faut pas mentir là-dessus, quoi.
Et ça fait 15 ans que ce lieu est là, que des gens arrivent à Douarnenez en arrivant aux Roches, ils vivent ensuite, travaillent, ne travaillent pas, enfin, peu importe, on demande pas aux gens de justifier ce qu'ils font dans leur vie. En tout cas, c'est un lieu, c'est un quartier de la ville, quoi. Enfin, comme Poiré ou d'autres quartiers, quoi.
Et c'est un quartier de la ville, mais c'est aussi, du coup, l'exemple qu'on va avoir à Douarnenez, mais qui existe absolument partout en France, si on fait des répercussions politiques. Il y a les Lentières à Dijon qui vont se faire expulser, la Méandre à Châlons, la Kunda à Paris, enfin, ces lieux-là de solidarité, de culture et d'autres choses, ils sont tous virés. Et du coup, prendre le prétexte de l'écologie, nous, ça nous énerve parce qu'on a l'impression que nous, on le prend un peu au sérieux ce sujet et que pas vraiment eux, alors que c'est vraiment une lutte contre la précarité et une volonté de vivre différemment que nous, on a. Et ça fait du bien d'être dans ce festival et de voir plein d'autres collectifs et de pouvoir rediscuter avec des gens un peu partout en France où on ne fait pas lien tout le temps, c'est difficile. Et du coup, tout à coup, reprendre un peu d'espoir sur ce truc... En espérant qu'on va gagner, même si on sait pas trop ce que ça veut dire gagner à ce niveau-là. Ou en tout cas qu'on sera toujours l'année prochaine, ça c'est bien.
Gagner, c'est juste de vivre en paix, quoi. Il y a personne qui te fait un amende ou je sais pas quoi. Il y a pas de justice même dans la nature, quoi. Regardez les animaux, bien, nous on est des humains, on essaie de faire mieux, donc il faut pas nous écraser, c'est tout.
Puis c'est valable à l'échelle de la France, mais c'est valable à l'échelle de l'Europe et c'est valable à l'échelle du monde. Enfin, je veux dire, c'est ça la droite, l'extrême droite, c'est l'horreur, c'est le cauchemar de la solidarité.
Et il y a aussi un enjeu au Festival Le Cinéma, puisque le Festival Le Cinéma a été inauguré donc, par la Junte à la Culture, qui a dit que le festival clivait les douarnenistes, que ne se passerait pas ici l'année prochaine, donc où se tiendra le festival. Donc c'est aussi devenu un champ de bataille. Une espèce de logique de camp et voilà, donc il y a ce que tu disais très bien Émilie tout à l'heure, c'est devenu être pour ou contre les Roches Blanches comme voilà, c'est devenu un enjeu politique qui est assez sidérant. L'actualité là, peut-être pour y revenir, c'est donc vous attendez la réponse de la Cour de cassation. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en dialogue avec le département qui, pour l'instant, a acheté ce lieu et qui veut donc le raser pour le renaturer? Est-ce que vous pouvez dire des choses de comment ça se passe pour vous en ce moment?
Et pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles du département. Et quand il nous écrit, il le fait plutôt avec mépris. Donc on espère que dans le futur, on va réussir à avoir un dialogue avec. Et on n'a pas trop d'actualité tant que... On est tranquille tant qu'il ne lance pas une procédure d'expulsion. Nous, on va continuer à juste vivre, parce que c'est quand même notre maison à la base. C'est un endroit où nous, on a nos ateliers, on travaille. Donc le plus de temps on va pouvoir rester, le plus heureux on sera. Notre actualité, c'est juste qu'à partir de maintenant, on va gagner du temps.
C'est surtout que c'est plutôt leur stratégie, donc c'est jouer un peu sur le même terrain.
Ils ont dit qu'ils voulaient nous expulser en octobre 2026 pour ouvrir au public au printemps 2027. On va bien rigoler.
Est-ce que vous avez des moments prévus de réunions publiques ou de voilà.
Il y en a déjà eu pas mal.
Il y en a déjà eu. On va sûrement repasser le film dès qu'on aura l'occasion. Et puis là, on va avoir un stand au Village des Solidarités sur le Festival du Cinéma demain et après-demain.
De 15 à 19.
De 15h à 19h. Et on n'a pas trop de futur là maintenant, mais on en aura sûrement. On fait toujours les choses un peu à l'arrache, mais on prévient.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va après, depuis un an? Enfin, c'était dur. C'était un grand chantier qui a pris beaucoup de temps dans vos vies.
Ça va. On s'est plaint
pas. Pour d'autres choses. Okay.
Chez nous, on ne se plaint pas. On vit, on aime la nature, on a ce qu'il faut, des fromages, des équipes. On vit, en fait. Il y a des gens, des passages. Il y a plein de monde qui passe dans toute l'Europe, un peu partout. Du coup, on vit, ça va. C'est juste c'est fatigant quand tu attends quelque chose qui n'est pas dans ta main et qui est dans la main de l'autre, que tu ne sais pas ce qu'il pense de toi.
On a une petite idée quand même. Mais oui. Eh ben, merci, merci d'être venu, merci de nous parler de ça. J'espère que l'année prochaine, vous serez encore à ce plateau,
oui,
pour
ça,
nous dire
«
Youpi, le département a lâché l'affaire ».
Et gravé dans les roches, donc c'est diffusé jeudi à 10h et vendredi à 13h30. Je dis ça alors que c'est déjà complet. Mais
Il y en aura d'autres pour l'Edouard Denis.
Il y en aura
peut-être
d'autres.
Ça passera sur les grandes ondes, enfin les grands médias.
Et
parfois, on le passe aux roches aussi.
Et on va céder à la facilité et écouter gravé dans la roche cette fois.
Ouais, je remercie Radio U et Radio Transistor et Frédéric à la technique. À
et
bientôt.
Bonne journée, à demain pour une nouvelle émission.
Exactement.
À l'époque c'était en voile bide, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le bide. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite, tout ça est passé bien vite, tout c'est que j'en suis dans la vraie vie. Oui c'est de ça dont je parle, ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou, voir du pays est vide. Des moments forts avec mon trou qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe Baroud, ou qui restent postichés ou que j'ai entre couilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps, qui fait rien faire, je suis presque un meuble qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon place. Gravé à la bougie sur les vitres du RER, SNIPER avec un putain de lettrage.
Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
Lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche. Sous le disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche.
Maintenant, on reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
Après tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. J'suis toujours le même enfoiré. Je tourne pas ma TV. Non, j'garde mes principes et mes points d'attache. J'quitte pas la célébrité, j'ramasse juste mon cash. Pour mes points de repère, sinon j'suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est plus. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. J'profite de la chance que j'ai, joue pas le guéri, j'me prends pas la tête. J'suis pas une vedette et j'veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches, j'me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01, 2001, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimé ou détesté. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra.
Et approche, écoute, hoche. La tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
Lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche.
Sous le disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche.
Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
J'ai presque arrêté le chanvre. Fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume mes clopes au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, il soigne par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire. Bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressenties. Orti, Zerasum Roti ou Zokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France.
Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche.
Sous disque ou sous le porche, c'est
gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
Je rappe les taux, ouais je rappe ma vie. On persiste et on lâche pas prise,
on vient pour contrôler le réseau. maintenant, marqué de mon empreinte sur mon dios.
J'approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est.